Chapitre 3. Le choix des verbes. La conjugaison. S'il existe un mot capable de figer le sang de quiconque l'entend, c'est bien lui. Sa simple évocation suffit à ramener tout un monde à notre esprit, le brouhaha des salles de classe, le crissement de la craie sur le tableau, les leçons tortueuses, les exercices perfides, les élèves en détresse. Et pourtant, la conjugaison, comme d'ailleurs toute la grammaire, n'est pas que le plaisir coupable des lettrés tatillons et des professeurs sadiques. Elle est aussi un redoutable outil au service de la conviction. Alors, cramponnons-nous. Dans les pages qui suivent, nous allons parler de conjugaison, certes, mais en l'abordant comme elle ne l'est que trop rarement. Non comme une exigence linguistique, ni comme une ornementation esthétique, mais comme une arme rhétorique dont l'une des implications se révèle absolument fondamentale, répartir au sein du discours la responsabilité. 1. Répartir la responsabilité. Le verbe est un élément central de la phrase. C'est lui qui est chargé d'exprimer une action, un état ou une transformation. Il indique qui fait quoi, qui est quoi et qui devient quoi. Il met en relation un sujet et un objet. Ou, pour le dire autrement, le verbe, c'est l'outil grammatical permettant d'allouer la responsabilité. D'un point de vue rhétorique, il s'agit d'une question cruciale. Très souvent, l'enjeu d'une argumentation consistera, pour partie au moins, à s'attribuer un mérite ou à se dédouaner d'un tort, à revendiquer pour soi la responsabilité d'un fait perçu comme positif ou à rejeter loin de soi la responsabilité d'un fait perçu comme négatif. Bien sûr, il est possible de parvenir à cet objectif de manière explicite. « C'est moi qui ai fait ceci. Je n'ai rien à voir avec cela. » Parfois, ce sera même la meilleure des options. Nous l'avons vu notamment en étudiant les circonstances dans lesquelles il peut être intéressant d'avoir recours à une prolepse. Mais souvent, tenter d'allouer explicitement les responsabilités risque de se révéler lourd, grossier, voire dangereux. N'oublions jamais ces deux règles d'or de la rhétorique. Ce que l'on précise, c'est ce qui ne va pas de soi. Ce que l'on énonce, c'est ce que l'on met en discussion. Étude de cas. Directeur général d'une grande entreprise, je me trouve dans une situation atroce. Hier, un de mes employés s'est donné la mort sur son lieu de travail. Cet événement est d'autant plus tragique qu'il fait suite à plusieurs suicides ayant eu lieu dans les mêmes conditions. Ce matin, un grand quotidien a titré en première page « L'entreprise meurtrière ». Depuis, la polémique enfle. Sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, c'est moi qui suis mis en cause. Je décide donc d'organiser une conférence de presse. Devant plusieurs dizaines de journalistes, en direct sur les chaînes d'information, je prends la parole. Après avoir exprimé mes condoléances et honoré la mémoire du défunt, j'en viens à la partie centrale de mon discours. J'entends, depuis ce matin, les critiques qui s'élèvent. Bien sûr, le fait que Laurent ait décidé de mettre fin à ses jours ici même, à son bureau, est traumatisant pour nous tous. Mais je me dois de rappeler qu'il n'y a pour l'instant aucun élément permettant de penser que cette tragédie puisse être, de quelque manière que ce soit, imputée à notre entreprise. Décryptage. Notre déclaration est trop frontale. Ce que l'on précise, c'est ce qui ne va pas de soi. En revendiquant n'avoir aucune responsabilité dans le suicide de notre employé, nous admettons du même coup que la question se pose. qu'elle n'est pas absurde, que nous pourrions bien, en réalité, avoir une part de culpabilité. Par ailleurs, ce que l'on énonce, c'est ce que l'on met en discussion. À l'instant où nous rejetons nos torts, par réaction, nos auditeurs vont commencer à chercher des objections. Et, en l'occurrence, elles existent. Le simple fait que l'événement ait eu lieu dans l'entreprise et qu'il s'ajoute à d'autres drames similaires pourrait suffire à susciter des interrogations. En définitive, notre phrase pourrait donc bien se révéler contre-productive en accentuant, plutôt qu'en levant, les doutes sur notre part de responsabilité. Mais alors, qu'aurait-il fallu faire ? Renoncer à évoquer le sujet, purement et simplement ? Nous contenter d'une déclaration compassionnelle à destination des proches du défunt ? Cela aurait été encore pire. Qu'on le veuille ou non, la question de notre responsabilité a été posée dans le débat public. En l'ignorant, nous donnerions l'impression soit de n'avoir pas pris la mesure de la gravité de la situation, soit de vouloir fuir un débat légitime. Dans un cas comme dans l'autre, nous paraissons plus coupables que jamais. Comment alors sortir de cette impasse où nous ne pouvons ni ignorer ni aborder la question cruciale de ce qui doit nous être imputé ? La réponse est simple, nous allons communiquer sur un plan implicite et utiliser pour cela la conjugaison des verbes qui offre plusieurs outils remarquables sur le plan de l'allocation de la responsabilité. 2. Sélectionner les pronoms. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Lorsque, à l'école, nous apprenions la conjugaison, c'est l'une des premières leçons que nous avons étudiées, la distinction entre la personne, le genre et le nombre du verbe, ou, pour le dire plus simplement, les différents pronoms. Rien de rhétorique ici, serait-on tenté de penser. Le choix du pronom, c'est le sens de la phrase qui le dicte, n'est-ce pas ? En grande partie, oui. Mais pas totalement. Nous disposons toujours d'une marge de manœuvre, une part de liberté, en laquelle les poètes et poétesses sauront trouver de la beauté et les oratrices et orateurs de l'efficacité. Dans la langue française, tous les pronoms ne se valent pas. Certains d'entre eux sont parfaitement clairs et renvoient explicitement à une personne distincte. Je. D'autres sont beaucoup plus troubles et désignent un ensemble d'individus indéfinis. On. Nous dirons d'eux qu'ils présentent différents degrés d'équivocité. D'un point de vue rhétorique, cela présente un intérêt capital. En jouant sur l'ambiguïté des différents pronoms, nous voyons s'ouvrir la possibilité de répartir finement et implicitement la responsabilité de l'action. Commençons par la première personne du singulier, « je ». Il est le plus explicite des pronoms. Lorsque nous disons « je pense »,« je crois », »,« je décide », la responsabilité de l'action ne fait aucun doute. Elle est à imputer au locuteur et au locuteur seulement. Il n'en va pas de même pour la première personne du pluriel, « nous ». En français, il s'agit d'un pronom beaucoup plus ambigu. Lorsque nous disons « nous estimons que », de qui parlons-nous ? D'un collectif défini, un comité de direction, les membres d'une association, les participants à une réunion, un couple ? D'un groupe indéfini ? Les Français, les ouvriers, les femmes, voire les gens en général ? Ou bien parlons-nous seulement de nous-mêmes, le locuteur. Auquel cas, la première personne du pluriel devient un équivalent implicite du « je », c'est le « nous » de majesté ou d'humilité. Et ce constat est encore plus criant pour la troisième personne du singulier indéfini, « on ». Il peut, en effet, désigner alternativement un ou plusieurs individus en particulier, ou tout le monde, ou personne. Dès lors que nous prenons conscience de ces nuances, nous pouvons commencer à tisser nos phrases avec une redoutable finesse. Version alternative de l'étude de cas. Dirigeant d'entreprise mis en cause dans le suicide d'un de mes employés, je décide d'organiser une conférence de presse. Devant plusieurs dizaines de journalistes, en direct sur les chaînes d'information, je prends la parole. J'ai appris, comme vous, la nouvelle. Je suis effondré par ce drame qui nous affecte tous. Je pense très fort à la famille de Laurent et lui adresse, ainsi qu'à ses proches, toutes mes condoléances. Que s'est-il passé? Pourquoi Laurent a-t-il eu ce geste tragique? C'est ce que nous devons maintenant découvrir. Qu'un salarié commette un tel acte sur son lieu de travail, cela doit nous interpeller. J'ai demandé à ce qu'une commission d'enquête indépendante soit immédiatement constituée. Décryptage. Dans ce court extrait, l'air de rien, nous avons déjà produit un profond travail argumentatif, d'autant plus efficace qu'il se situe sur un plan implicite. À chaque fois que nous avons énoncé un élément qui nous mettait en valeur, nous avons utilisé la première personne du singulier. Pour montrer notre empathie, je suis effondré, témoigner notre sympathie, je pense très fort à la famille, ou faire preuve de notre volontarisme, j'ai demandé à ce qu'une commission soit constituée. En revanche, dès que nous avons commencé à évoquer les raisons du drame, nous sommes passés à la première personne du pluriel. Ce que nous devons découvrir, cela doit nous interpeller. Ce faisant, nous avons dilué la responsabilité dans un collectif volontairement incertain. Que désigne ce « nous » ? Le conseil d'administration ? Toute l'entreprise ? Nous-mêmes, personnellement ? En laissant volontairement planer l'ambiguïté, nous parvenons à ne donner l'impression ni d'être fuyants, ni d'être coupables. Nous montrons que nous avons pris conscience des enjeux sans nous laisser écraser par eux. Le recours à l'implicite nous permet de poser la question sans reconnaître pour autant que la question se pose, c'est précisément ce que nous voulions faire. Notons par ailleurs que, dans ce passage, nous nous sommes soigneusement gardés d'employer des mots connotés de manière trop sanglante. Le suicide, mettre fin à ses jours. À la place, nous avons utilisé des périphrases beaucoup moins lourdes de représentation. Ce geste tragique, commettre un tel acte. L'idée est exactement la même. Montrer à nos auditeurs que nous prenons le problème à bras le corps, sans leur suggérer des images glaçantes qui, quoi que nous disions par ailleurs, auraient pris le pas sur notre discours. On le voit, les pronoms ne sont pas que des concepts de grammairiens. Ils constituent aussi, et peut-être même surtout, de véritables outils rhétoriques. 3. Utiliser les verbes impersonnels. En grammaire, on dit d'un verbe qu'il est impersonnel quand il ne peut être employé qu'à la troisième personne du singulier masculin, « il ». On trouve dans cette catégorie de nombreux termes météorologiques, « il pleut »,« il neige », mais aussi quelques rares verbes dont l'emploi est beaucoup plus vaste, notamment « il faut ». L'intérêt d'un verbe impersonnel, c'est de pouvoir exprimer une action sans préciser son sujet. Dans la phrase « il faut lutter contre les inégalités », « il » ne désigne rien et n'engage donc personne. Nous nous bornons au fond à formuler un vœu ou un souhait. Pas un individu ne peut être tenu pour responsable d'un quelconque engagement. Malgré cela, le verbe « falloir » charrie avec lui des connotations très volontaristes. Lorsque nous l'employons, nous semblons immédiatement faire preuve de force et de fermeté. Bien souvent, nous aurons pourtant parlé sans rien dire. Suite de l'étude de cas. Je continue mon discours. On ne peut accepter que de tels drames aient lieu. Il faut tout faire pour que cela ne se reproduise pas, ni ici, ni ailleurs. J'ai donc demandé que, dès demain, une cellule psychologique soit constituée et puisse accueillir tous ceux qui ressentiront le besoin d'être écoutés. Décryptage. Nous retrouvons ici des procédés déjà étudiés précédemment, notamment l'irruption de la première personne du singulier dès que nous mettons en avant une proposition pouvant être portée à notre crédit. J'ai demandé que dès demain. Mais dans ce passage, nous nous sommes également arrangés pour mettre en place un contraste radical entre ce qui est dit explicitement et ce qui est communiqué implicitement. D'un point de vue formel, nous n'avons presque rien proposé. Qu'une cellule d'écoute psychologique soit constituée dans un tel contexte, c'est bien la moindre des choses. Nous donnons, certes, l'impression d'accepter timidement d'engager une part de responsabilité, tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Elle n'en est pas moins soustraite dès l'énoncé suivant, qui indique que notre propos se situe en réalité à l'échelle de la société dans son ensemble, ni ici, ni ailleurs. Mais il y a les deux premières phrases. Par leur champ lexical, elles transmettent un sentiment de volontarisme très fort. Ne pas accepter, tout faire pour que. Par leur structure grammaticale, en revanche, elles demeurent impersonnelles et n'engagent donc aucun sujet. On ne peut pas, il faut. À aucun moment, notre responsabilité n'est réellement mise sur la table. C'est ainsi que nous parvenons à créer un paradoxe, celui d'une séquence dans laquelle nous paraissons faire preuve d'une grande détermination, alors même que nous n'avons pas proposé grand-chose et strictement rien dit. 4. Manier la voix passive. Voilà que, à nouveau, les pires heures de nos cours de grammaire nous reviennent en mémoire. Pour le dire en termes techniques, la voix passive consiste à inverser les actants au sein de la phrase de sorte que l'objet patient devienne le sujet grammatical. Illustrons tout de suite cela par un exemple indémodable que nous avons tous appris à l'école « Le chat mange la souris ». Cette phrase est à la voix active. L'objet patient est un complément du verbe « la souris ». Il est donc possible de le supprimer, de l'information serait perdue, mais la phrase demeurerait grammaticalement correcte. Le chat mange. En revanche, il n'est pas possible de supprimer l'agent de l'action, le chat. Sans sujet, l'énoncé n'aurait plus aucun sens « mange la souris ». Autrement dit, dans cette phrase, le chat ne dispose d'aucun moyen grammatical pour dissimuler sa culpabilité. Mais que se passe-t-il si nous utilisons plutôt la voix passive ? La souris est mangée par le chat. L'objet patient devient sujet de la phrase et ne peut donc plus être supprimé sans rendre l'énoncé inintelligible. Est mangée par le chat. C'est désormais notre pauvre souris qui se retrouve prisonnière de la syntaxe. L'agent de l'action, en revanche, est libre de s'éclipser. Devenu complément du verbe, il peut être supprimé sans menacer la compréhension de la phrase « la souris est mangée ». Voilà comment, soudain, s'évanouit la culpabilité du félin. Au gré d'une tournure passive, le chat a disparu, sans laisser de traces. Tout cela n'a rien d'anecdotique. Au contraire, ces remarques ont des conséquences fondamentales du point de vue de l'argumentation. En rhétorique, la voix active place la responsabilité de l'agent en pleine lumière. La voix passive, au contraire, permet de la rejeter dans l'ombre. Suite de l'étude de cas. Une fois mon discours terminé, les journalistes me posent leurs questions. Après quelques demandes de précision anodines, vient finalement l'interrogation que je redoutais. Plusieurs syndicats ont mis en cause les méthodes de management que vous avez instaurées depuis votre arrivée à la tête de l'entreprise. Selon eux, elles soumettraient les équipes à une tension permanente et seraient directement responsables de cette série de suicides. Qu'avez-vous à leur dire ? Je prends une grande inspiration et réponds calmement. Écoutez, il me semble que l'heure est au recueillement, pas à la polémique. De nouvelles méthodes de management ont effectivement été mises en œuvre ces dernières années, comme elles l'ont été dans des centaines d'entreprises. Mais, encore une fois, j'ai demandé la constitution d'une commission d'enquête transparente et indépendante. S'il devait être établi que le management soit mis en cause, de quelque manière que ce soit, il serait immédiatement réformé. Je le répète, toute la lumière sera faite sur ce drame. Décryptage. Nous retrouvons une nouvelle fois des procédés déjà observés, notamment l'utilisation avantageuse de la première personne du singulier « j'ai demandé la constitution » et la relativisation des faits en les rapportant à une échelle plus grande, comme elles l'ont été dans des centaines d'entreprises. Mais surtout, nous avons pris soin d'utiliser la voix passive chaque fois qu'il était question du management. De nouvelles méthodes ont été déployées. S'il devait être mis en cause, il serait immédiatement réformé. Il ne s'agit bien sûr que d'un tour de passe-passe syntaxique. C'est nous qui avons choisi de déployer ces nouvelles méthodes, nous qui serons contraints de les supprimer le cas échéant et, surtout, nous qui serons alors mis en cause. Mais, grammaticalement, cette responsabilité n'apparaît à aucun moment. La voix passive nous a permis d'effacer toutes nos traces de ces phrases radioactives. Dans l'immédiat, sur le plan du discours, nous sommes encore blancs comme neige. 5. Des procédés implicites à l'influence inconsciente. Choix des pronoms, utilisation de verbes impersonnels, déploiement de tournures passives, autant d'outils grammaticaux grâce auxquels il est possible d'agir sur l'allocation de la responsabilité. Pour les oratrices et les orateurs, un tel travail s'apparente au fond à un numéro d'équilibriste. D'un côté, parvenir à nous approprier les mérites sans paraître nous en vanter. De l'autre, réussir à rejeter les torts sans donner l'impression de nous en défausser. Revendiquer la gloire sans parader, prendre une part de responsabilité sans se faire écraser. À cet égard, les outils grammaticaux présentent un intérêt majeur, ils sont disséminés tout au long du discours. C'est par petites touches qu'ils agissent, jamais au grand jour, par revendication explicite, mais dans l'ombre, sur un plan implicite. En définitive, si nous avons bien fait notre travail, ce n'est pas une conviction que nos auditeurs emportent avec eux, plutôt une impression, vague, confuse, indistincte. Et pour cause, à aucun moment nous ne leur avons présenté un ensemble d'arguments qu'ils auraient pu interroger, critiquer et, éventuellement, rejeter. Nous nous sommes contentés de peser sur leur perception en faisant tout notre possible pour ne pas attiser leur faculté critique. Pour le dire clairement, nous avons exercé sur nos auditeurs une influence partiellement inconsciente. En tant qu'auditrice ou auditeur, nous devons donc être particulièrement attentifs à de tels procédés. Que nous relâchions l'espace d'un instant notre vigilance et nous devenons vulnérables à la suggestion sans pouvoir nous en défendre. Or, toute la difficulté vient de là. Au quotidien, lorsque nous lisons ou entendons des argumentations, il est rare que nous soyons parfaitement concentrés. Notre attention tend à être ballottée, notre écoute flottante. Il nous faut donc acquérir peu à peu des réflexes, mettre en place des alarmes mentales qui sonneront à chaque tournure passive ou verbe impersonnel. Apprendre à dresser l'oreille dès que nous suspectons qu'un travail implicite puisse être à l'œuvre. Devenir, au fond, des décrypteurs du discours. Une telle compétence ne se développe pas du jour au lendemain. Elle demande du temps, du travail, de l'entraînement. C'est toutefois le prix qu'il nous faudra accepter de payer si nous ne voulons pas être manipulés.